BFM Business, l'info éco.
8h30 sur BFM Business, l'actualité économique avec Léo Dumas.
C'est un jugement qui va faire date contre Total Energy. Le pétrolier a été condamné hier par le tribunal judiciaire de Paris à dévoiler les émissions carbone de ses clients. Plusieurs ONG en fait et la mairie de Paris avaient saisi la justice en 2020, estimant que le groupe ne remplissait pas son devoir de vigilance. Mathieu Pechberti.
L'étau se resserre autour de Total Energy et des grands industriels français. Le pétrolier se retrouve désormais dans le champ de la loi sur le devoir de vigilance. Votée en 2017, elle impose aux entreprises d'agir contre les risques environnementaux, sans préciser lesquels. Le tribunal de Paris a jugé, lui, que le risque climatique en faisait partie. Il a ainsi ordonné à Total Energy de dévoiler les émissions de CO2 de ses clients d'ici 6 mois. Le pétrolier va ainsi devoir dévoiler l'impact carbone des particuliers qui lui achètent des carburant, mais surtout des industriels qui consomment son pétrole et son gaz, c'est-à-dire les groupes de chimie, de la sidérurgie, des constructeurs automobiles ou des armateurs partout dans le monde. Le tribunal n'a toutefois pas ordonné à Total Energy de modifier sa stratégie pour remplir les objectifs climatiques. Seule la loi ou ses actionnaires peuvent le lui imposer. Une condamnation qui fait écho à celle de Shell il y a 5 ans. La justice néerlandaise l'avait dans un premier temps condamné pour son inaction climatique avant que cette décision ne soit annulée en appel.
Et l'autre titre ce matin, c'est la canicule. Alerte toujours maximale sur la France. 72 départements sont en vigilance rouge encore ce vendredi. 11 seulement seront rétrogradés à l'orange demain. La chaleur qui continue par endroits de provoquer des incidents sur le réseau électrique. 50 000 foyers étaient sans courant hier soir. Situation tendue également dans les hôpitaux où un cap a été franchi. Le préfet de Paris évoque une saturation. Le RN dénonce du coup ce matin une impréparation. Écoutez Thomas Ménager, le député du Loiret sur TF1.
On parle de l'impréparation face à ces canicules, mais il y a aussi globalement l'impréparation à l'hôpital, parce qu'on a supprimé 31 000 lits depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, que les hôpitaux sont en tension tout le temps. Chaque été, il y a des hôpitaux, avant même qu'il y ait une canicule, qui sont fermés, des services qui sont fermés. Il faut aussi être sincère, ça va prendre du temps. Mais quand on voit qu'on reconstruit, que l'État reconstruit à Nantes un centre hospitalier qui coûte un peu plus d'un milliard, je crois, sans même de la climatisation de la totalité, que j'écoutais, on a encore...
Il y a climatisation dans certains secteurs, du rafraîchissement dans d'autres.
À un moment, on voit bien que quand on est sur ces niveaux de canicule et dans les années à venir, il faut climatiser la totalité, qu'on a acheté encore ces dernières années des ambulances non climatisées. Il y a quand même eu un manque d'anticipation, mais rénover la totalité, tout changer, dans tous les cas, ça prendra du temps d'adapter notre vie, d'adapter notre logement, d'adapter nos mobilités. Mais il faut aujourd'hui voir les choses clairement, il faut mettre le paquet sur le sujet.
Et pour EDF, et pour les écoles, c'est EDF qui annonce se mobiliser. L'électricien débloque 80 millions d'euros pour équiper 10 000 établissements en ventilateurs et en climatiseurs, et aussi pour financer des projets plus structurels de rafraîchissement des bâtiments.
La canicule et la gestion dans les entreprises. On est avec Vincent Balouet, dirigeant fondateur de maîtrisederisques.com. Bonjour Vincent, vous aidez les entreprises justement à s'adapter en cas de crise, d'essayer d'anticiper au maximum les différents risques et les problèmes. Qu'est-ce qui vous remonte là dans les tensions dans les entreprises actuellement ?
Tout le monde a fait, avec bon sens vis-à-vis des ressources humaines pour laisser les gens s'organiser, favoriser le télétravail quand les gens voulaient rester chez eux, et au contraire héberger les gens qui étaient mal climatisés chez eux pour avoir des bureaux frais toute la journée. Donc c'est mieux pour tout le monde, et c'est le système D qui prévaut et qui débrouille, si vous voulez, les situations les plus compliquées. Le sujet de préoccupation là tout de suite, c'est l'énergie. On a des pannes électriques, pas seulement en Bretagne, mais un peu partout dans les villes. Alors c'est local à chaque fois, c'est pas du tout à l'échelle d'une ville, mais c'est à l'échelle, disons, d'un gros pâté de maison ou d'une zone d'entreprise où l'énergie tombe. On a des supermarchés qui ferment, on a des entrepôts qui sont gênés. L'informatique, pour l'instant, ça va, mais on voit bien qu'on est à la limite de l'exercice en matière de nos infrastructures d'énergie en général, et notamment dans les 20 derniers kilomètres, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il n'y a pas de panne majeure nationale à redouter. Par contre, de la défaillance locale, oui, et là, les entreprises se préparent, font des plans B, s'apprêtent à tout couper, maintiennent des groupes électrogènes, préparent les consignes, bref, pour organiser la réaction si on a des pépins.
Mais là, vous voyez des entreprises se poser quand même la question de savoir si elles peuvent ne plus être reliées, avoir des tensions de fabrication, en fait, de production avec un impact très fort. Est-ce qu'on s'était posé la question avant, ou on a attendu là les 42 degrés pour se poser la question ?
Non, alors j'ai la faiblesse de penser que on sait un peu, enfin nous dans tous les cas on les aide à un peu anticiper et à regarder ces affaires climat. Faut se souvenir qu'il y a à peine quelques semaines, on avait déjà eu un épisode caniculaire pour la saison qui n'était pas méchant parce qu'on était encore à la sortie du printemps. Et là, si on regarde devant nous, on a quand même un niveau de précipitation pour le mois de juillet qui, nous dit-on, par les modèles américains notamment, mais Météo France aussi, sera particulièrement bas. En clair, ça va être très très sec de partout et les réserves d'eau baissent. Donc on s'attend là maintenant à un radoucissement des températures, et c'est tant mieux, mais un été très très sec, donc d'éventuelles carences en eau, et donc d'éventuels risques incendies, un peu à la sauce 2022, pour faire simple. Donc dit autrement, les entreprises préparent déjà des plans B, des carences en eau, c'est-à-dire comment on ralentit l'activité, si on peut pas ouvrir le robinet comme on veut, sachant que les pouvoirs publics vont réserver l'eau pour la santé publique, ce qui est bien normal, et pour la lutte incendie, ce qui est bien normal aussi.
Est-ce qu'on vous remonte, Vincent, des problèmes en termes RH, avec des tensions dans les entreprises, que ce soit lié à la chaleur ou lié à l'organisation du travail?
Alors ça, c'est très très clair. Les entreprises qui ont des pannes clim, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, évidemment se retrouvent avec 40-50 degrés dans les bureaux. Et donc là, tout le monde fait preuve de bon sens. Donc ça va pas au conflit, hein. Mais clairement, il y a un sujet, les conditions de travail dans des circonstances comme ça, au moment où les infrastructures tiennent pas. Les infrastructures locales d'entreprise, une clim qui lâche, et c'est parti, et on peut pas travailler normalement. Donc bien sûr que tout le monde est très vigilant. On n'est pas du tout dans une situation où on a un secteur d'activité comme l'enseignement, par exemple, qui a appelé à la grève. Mais localement, oui, il peut y avoir, disons, des gênes très fortes, voire des malaises, des débrayages, des choses qui sont un peu à la limite de l'exercice, là aussi. Donc là, bien entendu, on met de l'huile dans les engrenages, c'est l'écoute, c'est la protection des gens les plus vulnérables, etc., pour passer l'épreuve avec bon sens.
Merci beaucoup Vincent Balouet d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. La presse internationale.
Merci.
Annalisa Capellini à la une de la presse internationale aujourd'hui, le rôle des pays du Golfe dans la guerre en Iran.
Oui, parce que pour la première fois, on a des images de la base navale américaine de Bahreïn, base navale qui a été frappée par les Iraniens pendant la guerre. Et donc le Wall Street Journal a réalisé une enquête visuelle grâce à ces images satellites et a découvert qu'en fait ces frappes iraniennes ont évidemment atteint leur cible à plusieurs reprises et surtout qu'elles ont fait des dégâts que en réalité les Américains n'ont jamais reconnus publiquement. Donc ça nous dit peut-être que l'ampleur des dégâts sur toutes ces bases américaine a été un peu plus large que ce qu'on pensait, de quoi inquiéter sans doute encore un peu plus les pays du Golfe qui sont déjà très préoccupés par l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran, accord qui ne comprend pas de réelle avancée ni sur le programme balistique iranien ni sur le programme nucléaire. C'est pour ça que Donald Trump a envoyé cette semaine son chef de la diplomatie Marco Rubio. Et bien Bloomberg raconte en une ce voyage pendant lequel Marco Rubio a essayé tant bien que mal de rassurer les alliés du Golfe. Non, il n'y aura pas de paix pour le détroit d'Hormuz et surtout leurs intérêts sécuritaires seront bien pris en compte.
Le Financial Times lui se concentre sur Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien qui remanie les règles électorales.
Exactement, et c'est peut-être pour se maintenir au pouvoir, du moins c'est l'accusation des oppositions italiennes. Giorgia Meloni en fait veut créer une prime majoritaire qui permettrait selon elle de maintenir une certaine stabilité politique dans un pays qui est traditionnellement plutôt instable politiquement. C'est une loi électorale qui s'inspire de l'époque Berlusconi. Évidemment, levée de bouclier de la part des oppositions qui parlent d'une tentative autoritaire de s'assurer de la victoire aux élections de l'année prochaine. Selon les experts cités par le Financial Times, modifier les lois électorales est toujours un signe de faiblesse, un signe qu'on joue un jeu qu'on n'est pas vraiment en mesure de gagner. En tout cas, aujourd'hui en Italie, il y aura un débat parlementaire sur le sujet. On verra si Giorgia Meloni arrive à imposer sa loi ou pas.
Merci beaucoup Annalisa Capellini, la Bourse. Et c'est le marque ouverture dans 20 minutes. Qu'est-ce qu'on attend?
Légère baisse, moins 0,3% à l'instant pré-ouverture à Paris. Bon, ça reste une baisse quand même très modérée par rapport à ce qui a pu se passer cette nuit du côté de l'Asie. Le Nikkei clôture sur une baisse de 4% à Tokyo, moins 6% pour la bourse de Séoul, le Kospi, avec certes un Kospi qui est très volatile, hein, mais l'ensemble des valeurs technologiques qui ont été vendues ces dernières heures. Apple a annoncé des augmentations de prix, le titre a fait moins 6, moins 3% pour Microsoft qui a également annoncé des augmentations de prix sur face à Xbox. Le titre Microsoft est quand même sur des plus bas désormais de 2023. Et donc, ça s'est un petit peu propagé cette nuit en Asie. D'autant plus que c'est surtout SoftBank qui a pesé sur l'indice Nikkei au Japon, dans le sens où SoftBank est actionnaire d'OpenAI et que cette nuit, le New York Times évoque que OpenAI réfléchit à reporter son introduction en bourse. Finalement, ça serait pas cette année, mais plutôt l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que le groupe n'est pas rentable et parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. L'intelligence artificielle, vous voyez tous les jours dans ces points, on parle des valeurs liées aux semi-conducteurs, mais toutes les valeurs qui sont pas liées aux semi-conducteurs, on a des investisseurs qui sont quand même assez inquiets et même l'euphorie autour de SpaceX est en train de très clairement redescendre. Ça fait 15 jours, jour pour jour, que le titre est en bourse et on était hier soir à $150 contre $135 pour le prix d'introduction en bourse. Donc c'est toujours une hausse, mais souvenez-vous, le titre a gagné quand même 50% sur les trois premières séances et c'est quand même bien retombé depuis.
Un vent de fraîcheur va rentrer dans ce plateau. C'est Marc Fiorentino qui arrive. À tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
8h42 sur BFM Business.
Sur BFM Business, business média référent.
Absolument, c'est ce qu'on dit dans la publicité. Absolument. Marc Fiorentino est entré dans ce
plateau de plein pied.
Il a chaud lui aussi, évidemment, mais il est là pour nous éclairer. Vous n'avez pas chaud?
Non,
ça va, très bien. Alors, la France étouffe, il y a la canicule, mais il y a aussi la dette, avec les chiffres publiés hier, évidemment, 3500 milliards d'euros de dette. Bon, ça, c'est pas complètement nouveau. Machine infernale, la Cour des comptes nous dit on est en pleine asphyxie.
Ah oui, c'est vrai. Et c'est un peu comme la canicule, quoi. C'est-à-dire qu'on se demande de quoi on va mourir, si on va mourir plus vite de la dette, étouffé par la dette ou étouffé par la chaleur. C'est ce qui est complètement dingue, c'est que bon, on a vraiment l'impression de radoter. C'est-à-dire que tous les trois mois, on a les chiffres de la dette. Tous les trois mois, on a un nouveau record. Vous avez dit 3537 milliards. C'était fin mars. C'est-à-dire qu'à fin juin, on doit être probablement à 3600 milliards. C'est-à-dire qu'on doit approcher les 120% du PIB, à part la Belgique, je pense qu'on est les plus mauvais, et qu'il se passe rien. C'est ça qui est complètement dingue. C'est fou. Enfin, on a beau le répéter. Alors, je veux dire, on le dit ici à chaque fois, et puis on l'écrit, et puis tout le monde en parle, et puis tous les économistes disent, mais c'est la fin du monde, attention. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de sanctions. Moi, je suis un homme de marché et les marchés, on a eu très peur. On en a parlé souvent ici au moment où il y a eu l'excitation sur la guerre en Iran. Mais c'est retombé. On est à 3,60 en taux d'intérêt. On a un écart de taux avec l'Allemagne qui est ridicule par rapport au niveau d'endettement qu'on a. Donc le problème, c'est que on continue à faire n'importe quoi en toute impunité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sanctionné pour l'instant. Jusqu'à quand, je ne sais pas, puisque j'ai annoncé il y a 15 ans qu'on allait être sanctionné, on ne l'a jamais été. Donc ça fait 15 ans que je me dis ça va arriver un jour, mais que ça n'arrive toujours pas.
Avec une charge quand même, Étienne, qui est dingue,
77 milliards. Ouais. 77 milliards, probablement 100 milliards en 2029. 77, c'est 12 de plus que l'an passé. Hier, la Cour des comptes dit c'est simple, c'est le budget du ministère de la Justice.
Juste l'augmentation.
C'est ça, plus que l'éducation, bientôt plus que la défense, c'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux qui sont des niveaux complètement dingues. Donc à la fois, on a la charge de la dette, c'est-à-dire que c'est plus simplement de se dire, bon ben finalement, on peut très bien vivre avec de la dette. Puisque c'était un peu le discours qu'on a eu à un moment de dire, bah, la dette des États, c'est de la dette perpétuelle, on ne doit jamais la rembourser, donc quel est le problème? Bah, le problème, c'est qu'il y a des intérêts sur la dette. S'il y avait que la dette, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas très grave, mais il faut payer chaque année les intérêts sur la dette. Évidemment, avec la hausse des taux et la hausse de la dette, eh bien, progressivement, comme l'a dit notre ami, la charge augmente et on va être totalement asphyxié. C'est-à-dire qu'on va devoir payer et on n'aura plus d'argent.
Pour investir. Dans la rénovation des bâtiments, dans l'IA, dans ce que vous voulez.
On a déjà plus d'argent pour investir. On l'a très bien vu. D'ailleurs, c'était très intéressant la séquence qui s'est passée sur la guerre en Iran. On a très bien vu que avec la hausse des prix du pétrole, qui a été certes très courte, la hausse des prix de l'essence, pour la première fois, on n'a rien dégainé. On a dégainé, vous avez rappelé, on a eu des petites discussions pour essayer d'avoir des petites aides à gauche, à droite. On n'a pas dégainé le truc habituel, le quoi qu'il en coûte, le bouclier tarifaire, tous les trucs qu'on a adoré faire depuis Macron, même si la hausse de la dette, c'est pas lui, mais 1200 milliards quand même. 1200 milliards depuis le premier quinquennat de Macron.
Des sous Il y en a, c'est-à-dire que il y a des capitaux privés. Si, des capitaux privés, il y en a. Oui, vous voyez Alam qui lève ce matin 500 millions, ils n'en ont même pas besoin, mais comme il y a un petit momentum de marché...
Mais pour un Alam, il y a combien de sociétés qui n'arrivent pas à lever de l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui,
vous ne dites pas qu'il y a des capitaux privés?
En France, non, ben non, en France, c'est compliqué. Écoutez, combien il y a de start-up qui, certes, arrivent à lever au début, et dès que ça devient des scale-up, ont des difficultés. Combien il y a d'entreprises industrielles qui ont du mal à lever? Aujourd'hui, c'est difficile d'investir en France, parce que au-delà du niveau de la dette, on a le niveau de toutes les contraintes, c'est-à-dire les contraintes fiscales, l'incertitude fiscale, l'incertitude sur les charges, l'incertitude sur les charges patronales, sur les charges salariales, sur toutes ces charges-là, c'est complètement dingue, quoi.
On vous appelle, Marc.
Ouais,
c'est pour laisser la parole à Étienne. Très belle sonnerie.
C'est bien, non, c'est pas mal. Alors là,
c'est très,
vraiment...
très poétique. C'est qui? Non, je ne savais pas.
Non, je ne peux pas vous dire.
Ah, très bien. Non, mais Étienne, de l'argent...
Il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent pour financer les déficits français. Marc le sait très bien. Aujourd'hui, vous placez votre argent dans des assurances vie. Ouais. On vous dit 4,5% sur du fonds euro. Qu'est-ce que vous allez chercher, investir votre argent sur des fonds obligataires, alors qu'aujourd'hui, on vous promet du 4,5%.
Dans le fonds euro, il y a du fonds obligataire. Hein,
oui, mais fonds euro, ça finit aussi sur les obligations françaises.
Enfin, oui, absolument.
Avec votre assurance vie, vous financez les déficits français. Mais... C'est-à-dire que l'argent, tous les mois qui arrive lors des émissions obligataires à l'Agence France Trésor, il vient en partie des assurances vie de l'épargne des Français. Donc au final, pour l'instant, ça tient.
Non, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que ça tient. Le problème, c'est que ça tient parce qu'on est passager clandestin de la zone euro, parce qu'on est passagers clandestins de l'Allemagne, parce qu'on a, comme vous venez de le dire, la garantie finalement de l'épargne financière des ménages, il y a plus de 6 000 milliards, donc c'est deux fois la dette, donc on se dit qu'un jour, si on doit taper dedans, on tapera, ou de toute façon, on tape déjà dedans, puisqu'on prend de l'argent tous les ans sur l'épargne. Oui, alors, mais il n'y a pas... le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez les levées quand même, ridicule. Ok, vous avez cité une levée un peu spectaculaire. Quand vous regardez le montant global des levées...
Non mais ça a baissé, il y a encore quelques spectaculaires, mais effectivement, ça a beaucoup baissé.
Elles sont anecdotiques, il n'y a pas de véritable... Regardez ce
il y en a une dans les biotech aussi
cette
semaine.
Regardez ce qu'on lève aux États-Unis, c'est des montants qui sont colossaux. Ben oui, mais attendez, on est dans le même monde.
Nous, on a le slip français qui va s'introduire en bourse. Ouais. Alors, il y a OpenAI aux États-Unis, nous, c'est le slip français. C'est quand même intéressant, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de boîtes industrielles quand même qui s'introduisent ces derniers temps. Ils cherchent à convaincre le public. C'est un de vos petits mantras de ça, de
laisser
pousser le public à introduire, à aller en bourse.
C'est intéressant. D'ailleurs, on va faire une spéciale introduction en bourse de C'est votre argent la semaine prochaine, parce que là aussi, c'est un vrai problème. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec les introductions en bourse de SpaceX, bientôt d'OpenAI, même si c'est décalé d'Anthropic. Et puis nous, on a eu deux ou trois introductions en bourse en France depuis le début de l'année. Deux ou trois introductions en bourse, et vous avez aujourd'hui des fonds qui ne réfléchissent pas, alors que aux États-Unis, vraiment le Graal, c'est de s'introduire en bourse. Ben, en France, personne ne cherche à s'introduire en bourse. Alors la bonne initiative qu'a lancée Euronext, c'est d'essayer d'attirer maintenant les clients particuliers. En fait, ce qui est très étonnant, je vais vous dire ce qui m'étonne le plus, c'est l'engouement qu'il y a en France, par exemple, malheureusement, on l'a vu sur un truc comme Duralex, pour les plateformes de crowdfunding, d'accord, sur lequel...
On sait que ça ne marche pas. Enfin, on sait que la boîte, elle ne va pas...
Franchement...
que ça ne fonctionne pas au bout de...
On a peu d'informations.
Cinq redressements judiciaires.
On a peu d'informations. On s'aperçoit quand même que le taux de défaut était super important. Et puis, d'un autre côté, vous avez quand même la première plateforme de crowdfunding réglementée, dans laquelle vous avez en plus de la liquidité, sur laquelle vous avez un contrôle, qui est Euronext. Et vous comprenez pas pourquoi les gens s'excitent pour aller mettre 5 000, 3 000, 10 000 euros sur des boîtes qu'ils connaissent même pas. Bon, je parle même pas de Duralex, mais combien il y a de boîtes qui lèvent de l'argent tous les jours? Assez vite, hein. D'ailleurs, il y a des levées qui sont spectaculaires en quelques minutes. Et puis, de l'autre côté, vous avez la première plateforme, je le répète, de crowdfunding qui est Euronext, la bourse. Il y a Euronext Growth qui marche super bien. Alors, on va voir avec le slip français. C'est vrai qu'il y a une initiative pour moi qui est très intéressante et qu'il faut pousser.
Etienne, on se fait un petit reminder des chiffres de la semaine. Inflation, pétrole, on a un peu changé de monde.
Pétrole qui est revenu sur ses plus bas d'avant.
Voilà, vous êtes plus inquiet pour l'inflation, ça y est. On se calme.
Isabelle Schnabel, vous avez vu.
Isabelle Schnabel, mais que c'est comme
a dit l'inverse de Christine Lagarde.
Mais d'accord, si vous mettez à citer Isabelle Schnabel.
Il est fou, cet homme est fou.
Non mais franchement, Isabelle Schnabel, Schnabel qui la cite encore.
On ne parle jamais d'Isabelle Schnabel à Marc Fiorentino.
Mais oui, mais il était très inquiet, le jeune Étienne. Ça y est.
L'inflation aux États-Unis, si j'ai bien compris, est repartie.
2023. Vous avez bien compris que c'était lié au prix du pétrole.
Oui, merci, oui. Donc ça a rebaissé. Donc ça
voilà. Et vous avez vu Apple vous dire le Mac, c'est plus 600, c'est 700. À la rentrée, ils vont augmenter les iPhones de 10-15%. La Xbox,
c'est ça l'inflation?
Non, mais attendez.
Je vais vous amener Jean-Marc Dehaene. Jean-Marc, rentre sur ce plateau tout de suite.
Vous voulez que je vous aide, Étienne, ou
Laisse
tomber, Étienne.
Non, mais l'inflation aux États-Unis, c'est fini.
Ben, bien sûr que c'est fini. Évidemment, l'inflation aux États-Unis, c'est fini. L'inflation en Europe, c'est fini. L'inflation dans le monde, c'est fini. La déflation, c'est ça dont on va parler. Il faut comprendre que le problème qu'on va avoir, d'ailleurs, on va en discuter ce soir sur C'est votre argent, c'est mon parti pris.
Ça sera vachement
argent.
Mieux.
Ça va être. Le problème, c'est plus l'inflation,
c'est la déflation. Ça va être révolutionnaire.
La réaction en bourse est quand même intéressante. Hein. Apple a fait moins 6 hier soir, ouais. Parce que les investisseurs se disent ça va être compliqué pour les marges et pour répercuter ces hausses de prix. Hein. Ah, voilà, peut-être que Wall Street pense comme Marc Fiorentino. Alors qu'il y a 4 ans, sur ce plateau, on parlait quelles sont aujourd'hui les entreprises qui ont du pricing power, etc. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chanson.
Donc, ils vont baisser les prix. Vous donnez du grain à moudre à Marc.
Ce qui est intéressant, là où vous avez raison, ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, on n'a plus de marge pour monter les prix. C'est-à-dire, la grosse différence après la sortie du Covid, vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelait cet impact par les prix, c'est-à-dire la greedflation, le fait que les entreprises se disaient on peut continuer à augmenter les prix, et puis de toute façon, il ne se passe rien, et notamment le secteur du luxe. Et puis là, on s'aperçoit que ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire que dès que vous montez les prix, c'est mort. Il n'y a plus de demande et ça sera la même chose. C'est exactement la réaction qu'il y a sur Apple. C'est de se dire, attention, on est maintenant arrivé à un moment où, compte tenu du fait qu'un peu partout, l'emploi commence à se détériorer et que la croissance se ralentit.
Il faut manger les marges, du coup, quoi. Bah, oui. C'est pas une très bonne nouvelle.
Non, j'ai pas dit que c'était une
d'où la baisse
nouvelle.
C'est
pour ça que je pense qu'on va vers une déflation. On va pas vers l'inflation. C'est pour ça que je voudrais rassurer Étienne et qu'il passe un bon été.
Il écoutera C'est votre argent.
Le jeune Étienne.
Ce soir, le jeune Étienne Braque qui va continuer dans un instant l'ouverture des marchés financiers. Qu'est-ce qu'on attend, Étienne?
Très légère baisse, moins 0,3%. On n'a pas de valeur tech, donc ça nous sauve, hein, pour une fois. Parce que hier soir,
on n'est pas l'indice coréen.
Voilà, la Corée a perdu 6, Nikkei moins 4. Et puis, quand vous regardez en préouverture, le Nasdaq cède un peu plus d'1%. Alors que c'est le retour de la vieille économie, le Dow Jones sur un record ou presque, le retour des banques aux États-Unis, de la santé.
Rassurez-vous, je vais emmener Marc Fiorentino dans le couloir pour que vous puissiez continuer calmement votre émission. Marc, ce soir, c'est votre argent. Donc la spéciale IPO,
c'est la semaine prochaine.
Et ce soir?
Et ce soir, non. Ce soir, on va parler beaucoup. On va parler déflation ou inflation. Ça va être très important. Et puis surtout, on va faire le bilan, comme on est à la fin du semestre, de ce premier semestre qui était quand même assez dingue, puisqu'on a eu une drôle de guerre, une drôle de paix aujourd'hui. Et on va voir les conséquences sur l'économie. Mais surtout, voilà, on va essayer d'expliquer à Étienne qu'il n'y a pas de problème d'inflation.
Ça sera excellent. Ça sera mieux que la matinale. Ça sera vraiment excellent.
On ne peut pas faire mieux que la matinale. Votre matinale est excellente.
Merci. Je vous remercie. Il est 8h54 sur BFM Business. On se retrouve lundi, 6h, 9h pour une nouvelle matinale. Dans un instant, l'ouverture. Bonne journée, bon week-end.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
8h59. Dans une minute, ça sera l'ouverture du marché européen. Très légère baisse en vue, que ce soit à Paris, mais également pour l'Eurostock 50, même si l'Europe devrait limiter la casse par rapport à l'Asie ce matin. Moins 4% pour le Nikkei au Japon, moins 5%, voire un peu plus même du côté de Séoul. À nouveau des soubresauts sur le secteur technologique, avec Apple qui a perdu 6% hier. Le marché s'inquiète, hein, des hausses de prix massives qu'a annoncé Apple sur tous ses produits, à l'exception de l'iPhone. Xbox également, Microsoft, hein, donc va augmenter ses prix, en cause bien sûr l'envolée des mémoires RAM. Alors certes, Micron a clôturé sur un gain de 15% hier soir à la clôture, mais ça n'a pas suffi au Nasdaq, qui a clôturé sur une baisse de 0,46%, quand le Dow Jones était en hausse de 0,14%. On va se poser la question d'ailleurs dans une dizaine de minutes avec Valentin Bissat. Est-ce qu'aujourd'hui il faut revoir un petit peu l'allocation du portefeuille, dans le sens où le Nasdaq perd 6% depuis le début du mois, qui a pas mal d'inquiétudes, hein, sur le secteur technologique, alors qu'à l'inverse, la vieille économie résiste plutôt bien. D'ailleurs, dans ce secteur technologique, il faudra encore suivre Microsoft tout à l'heure à l'ouverture des marchés, qui a clôturé hier sur un plus bas de 2023 à $353, avant une nouvelle qui là aussi ne va pas aider le titre tout à l'heure à l'ouverture. OpenAI, d'après le New York Times, réfléchit à décaler son introduction en bourse. En cause, la fameuse valorisation des 1000 milliards de dollars semble visiblement poser problème auprès des investisseurs. Et puis enfin, nous parlerons du secteur de la défense dans quelques minutes. Elle est dans à peine 5 minutes avec Damien Diris qui nous rejoindra en plateau gérant chez Exane Asset Management alors que KNDS va rentrer en bourse le mois prochain et que Rheinmetall a décroché de près de 20% cette semaine. En attendant, il est 9h et c'est toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good morning market, le journal.
Et alerte canicule maximale encore aujourd'hui sur deux tiers de la France. Et alors pour s'adapter, c'est le secteur privé qui semble s'activer. Deux informations ce matin. EDF d'abord qui débloque 80 millions d'euros pour équiper rapidement des écoles en ventilateurs et climatiseurs, ainsi que financer des travaux structurels de rafraîchissement de ces bâtiments. Et en attendant à Paris, c'est la deuxième information, dans le 9e arrondissement, Google France a accepté d'ouvrir ses bureaux climatisés à plusieurs classes d'écoliers, selon le Parisien, après demande de la maire du quartier. Malakoff-Humanis et Pluxy, également situés dans le secteur, pourraient participer à cette opération en cas de besoin supplémentaire. 9h01, l'une des infos de la nuit, c'est à New York qui gèle le montant de certains loyers dès le mois d'octobre. 1 million de loyers seront gelés au moment où le bail est renouvelé. Un succès politique pour le nouveau maire démocrate de la ville, Zoran Mamdani, qui en avait fait la promesse pendant sa campagne, Margot Fodéré.
Une victoire historique pour les locataires de la ville de New York. Voilà comment Zoran Mamdani décrit cette mesure qui va plafonner les loyers d'environ 40% du parc immobilier new-yorkais. Des immeubles d'habitation généralement construits avant 1974 et qui accueillent aujourd'hui environ 2 millions de personnes. Le candidat démocrate à la mairie de New York avait fait du coût de la vie un pilier central de sa campagne, dénonçant une ville de moins en moins abordable avec des logements toujours plus chers et toujours plus rares. Il faut dire qu'en avril à Manhattan, le loyer médian d'un appartement non soumis à l'encadrement des prix a dépassé pour la première fois les 5 000 $ par mois. Ce gel des loyers est donc un succès personnel pour le maire, mais qui montre aussi l'attractivité croissante des idées mises en avant par le Parti démocrate. Cette semaine, plusieurs candidats soutenus par Zoran Mamdani ont d'ailleurs remporté des primaires démocrates à New York en vue des prochaines élections législatives. En revanche, chez les propriétaires, l'opposition à la mesure est toujours aussi forte. Le PDG de la New York Apartment Association prévient que cette décision ne fera qu'entraîner une augmentation du nombre de logements délabrés.
Et puis, un signe de plus que ça se détend sur le marché du pétrole. Avec la réouverture d'Hormuz, puisqu'il y a l'Inde qui annonce la levée de ses restrictions sur les livraisons de gaz, de pétrole liquéfié à usage commercial. Elles avaient été bloquées pendant la guerre au Moyen-Orient. Le baril évolue toujours ce matin, 73 $, son plus bas niveau depuis le début de la guerre.
Merci beaucoup Léo. Dans un instant, tous les détails sur la séance en cours. Juste avant, un petit mot des experts. Raphaël Legendre que vous retrouvez à partir de 9h30. Il sera bien sûr question de ce rapport sanglant de la Cour des comptes.
Rapport de la Cour des comptes qui, une fois de plus, tire la sonnette d'alarme sur la dette. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est vraiment la crise? D'ici 2029, on devra payer 100 milliards d'euros de charges d'intérêt annuelles sur la dette. 100 milliards uniquement pour rembourser les intérêts. La France peut-elle encore éviter l'étouffement budgétaire avec un tel niveau d'endettement? On verra si la France, plus globalement, n'est pas dans le déni avec des politiques publiques qui ne fonctionnent plus, que ce soit la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation à notre vieillissement. La France est-elle dans le déni? On en a parlé toute la semaine sur l'antenne de BFM Business. On reviendra sur cette étude du mouvement Trop c'est trop, mouvement patronal en colère qui vient démonter les calculs de la taxe Zucman. On a un de ses auteurs, Erwan Tison, autour de la table. Et puis enfin, on va revenir sur cette rampocalypse ou la ramageddon, comme on l'appelle, l'explosion des prix des produits de la tech. La tech, futur moteur de l'inflation. Ce sera le dernier thème des débats aujourd'hui avec autour de la table Eudox Denis, Laurent Vronsky et Erwan Tison. Je vous l'ai dit, rendez-vous à 9h30. À tout de suite.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 recule de 0,23%, 8411 points, moins 0,4% du côté de l'Eurostoxx 50 à 6240 points. Le marché revient sur les valeurs défensives. Danone est de loin la plus forte hausse, plus 2%, 71,38€, suivi de valeurs comme Sanofi qui gagne un peu plus de 1% à 74,71€. À l'inverse, STM est la plus forte baisse avec donc ce secteur des semi-
semi-conducteurs qui a subi une baisse importante une nouvelle fois ce matin à Séoul. Des valeurs, bien sûr, hein, en l'occurrence SK Hynix et Samsung, qui sont particulièrement volatiles et qui ont fortement baissé. Après, donc, des informations de presse évoquent que OpenAI va reporter son introduction en bourse. Et puis, surtout, Apple qui a perdu 6% hier soir à la clôture, avec donc des hausses de prix qui inquiètent les investisseurs. Décidément, les marchés doutent sur le pricing power, la capacité de Apple à pouvoir répercuter les hausses de prix, avec bien sûr, comme vient de le souligner à l'instant Raphaël, l'envolée des mémoires RAM. Les valeurs à suivre ce matin, Accor qui a touché hier un record historique mais qui cède un peu plus d'1% ce matin à l'ouverture à 50,98€. Et pour cause, vous avez Jefferies qui passe de acheter à conserver. Et puis sur le front des devises, vous avez un dollar qui se stabilise face à l'euro à 1,1376 quand le pétrole est toujours sur des plus bas de début mars à 74$ le baril de Brent. Dans un instant, nous allons revenir sur le segment de la défense avec donc KNDS qui a officialisé cette semaine son intention de vouloir aller en bourse. Première séance courant juillet, dit le groupe de défense qui sera coté à Francfort mais aussi à Paris. Alors que dans le même temps, Rheinmetall a quand même connu une séance très compliquée en milieu de semaine, quasiment 20% de baisse, avec le marché qui doute de plus en plus du carnet de commandes de Rheinmetall. C'est simple, le titre KNDS perd 50% sur les 12 derniers mois. Pourquoi ? Élément de réponse dans un instant avec Damien Dirix de Exane Asset Management.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
9h08 et donc le CAC 40 c'est 0,24%, moins 0,5% pour l'Eurostoxx 50. L'Europe donc qui résiste plutôt bien à la baisse ce matin de l'Asie. Du côté des futurs américains, cette nuit le Nasdaq 100 qui cédait près de 2% tente également de limiter ses pertes, moins 1% à l'instant pour le Nasdaq 100 sur le contrat futur, moins 0,4% pour le S&P 500. À 9h09, comme promis, on va parler de ce segment de la défense avec Damien Dirix. Bonjour Damien.
Bonjour Étienne.
Vous êtes gérant chez Exane Asset Management. Oui, on va parler de ce segment de la défense qui, une nouvelle fois, a fait l'actualité cette semaine avec quand même Rheinmetall qui s'est effondré d'une façon spectaculaire cette semaine. C'était mercredi. Le titre a perdu près de 18%. Moins 50% quand même en l'espace de 12 mois. Tout le monde voulait du segment de la défense il y a encore quelques mois de cela. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chanson. Parce qu'en fait, le contrat qui a été perdu là, par Rheinmetall montre qu'in fine, un carnet de commandes, c'est mouvant.
Alors, en fait, pour moi, c'est un drame en trois actes. Premier acte, la guerre en Iran. Et effectivement, un secteur qui boom à l'ouverture des marchés qui suit ce week-end d'entrée en guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Là, les marchés, comme d'habitude, j'allais dire, de façon assez logique, achète de la défense et s'inquiète du reste. Et puis ensuite vient la réflexion à se dire, guerre en Iran égale risque de récession, risque d'inflation, forte hausse des prix de l'énergie. Qui paye pour tout ça? En fait, les États vont devoir soutenir leurs économies. Les États, notamment en Europe, sont quand même déjà, et un de vos intervenants précédents l'a dit, on est déjà à des limites d'endettement importantes. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va devoir y avoir des arbitrages entre des engagements qui ont été pris, notamment dans la défense, et devoir soutenir l'économie à court terme. Donc, il y a déjà un stress qui se passe et ce secteur glisse. Deuxième acte, qui est un peu plus récent, c'est le MOD, donc le ministère de la Défense britannique, chez qui, son ministre démissionne. Alors, il y a tout l'imbroglio politique en Grande-Bretagne qui joue, mais il démissionne en disant « j'ai pas les moyens et on va pas me donner les moyens de faire ce que j'ai dit que j'allais faire pour le budget de la défense britannique ». Donc là aussi, une fois de plus, le stress monte sur les capacités des États à suivre sur les budgets. Et troisième acte, effectivement, cette semaine, avec l'annonce de cette frégate F-126, fameuse frégate F-126, qui est abandonnée par le gouvernement allemand. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça.
Eux, ils parlent de retard considérable.
En fait, le sujet, c'est le suivant. C'est que cette frégate F-126 a été attribuée en 2020, il y a 6 ans, à Damen, un chantier naval néerlandais, qui s'est engagé à construire ces 4 frégates plus 2 ensuite, qui ont été ajoutées ensuite, pour 12 milliards d'euros. Le problème, c'est que cette frégate est très en retard. C'est-à-dire que Damen a déjà annoncé qu'il ne pourrait pas les livrer à la date prévue aux Allemands. D'une part, mais surtout que ça allait coûter beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'il réclamait déjà 2 milliards de plus pour faire ses frégates. Donc le gouvernement allemand s'est retrouvé face à un dilemme qui était « je ne vais pas avoir mes capacités, qui sont des capacités demandées par l'OTAN, à la date prévue ». Donc j'ai deux solutions. Soit je trouve quelqu'un d'autre pour les faire, et ils ont demandé effectivement à Rheinmetall s'il pouvait reprendre ce chantier et s'engager à faire cette frégate, ou j'annule cette commande et je fais autre chose. Et en fait, ils ont décidé un peu rapidement, c'est-à-dire que personne ne s'y attendait vraiment. Les gens de chez Rheinmetall étaient surpris. C'est ça l'histoire. À ne pas faire cette frégate et aller chercher vers quelque chose de sûr et certain, que l'on appelle des MECO, qui sont des navires qui sont fabriqués par TKMS, ThyssenKrupp, Marine, et qui sait les faire depuis longtemps et qui en sort déjà de ces chantiers.
Donc, et ça coûte moins cher, en plus.
Ça coûte la même chose. C'est-à-dire que le budget qui avait été alloué à la F-126 n'est pas détruit. Il est réalloué vers une autre frégate, enfin c'est pas une frégate, mais vers un autre navire qui va être, lui, arrivé en temps et en heure. Et donc le choix du gouvernement allemand, c'est un, de ne pas surdépenser, et deux, d'être en capacité comme ils l'ont promis. Donc au final, si j'étais un taxpayer allemand, je serais content, puisque on n'a pas de surcoût, et ils prennent des décisions assez logiques. La surprise vient donc de Rheinmetall, qui pensait avoir ce contrat, donc je rappelle de 12 milliards. En fait, la réalité, c'est que Rheinmetall avait dit que pour eux prendre ce contrat, puisqu'il y a des risques attachés, c'est un nouvel objet, hein, il n'a jamais été créé, il faut le développer, etc. Ça coûte de l'argent, et c'est des risques. Et donc, eux, ils ont dit, nous, on est prêts à le faire, mais plutôt pour 15. Et donc, voilà, le dilemme était là, il fallait des surcoûts et un risque d'allongement de réception de ce navire, ils ont préféré pas le faire. Le choc pour Rheinmetall, finalement, les 12 milliards d'euros de commandes, c'est quelque chose qui aurait commencé à générer du chiffre d'affaires en 2030. Bon, donc est-ce que alors donc 12 milliards, imaginons qu'on prend 10% de marge sur son contrat, 1 milliard 2 réparti entre 2030 et 2035, puisque c'est le temps pour réaliser ces six frégates. Est-ce que le cours de bourse lui décroche de, on a dit quasiment 20%, c'est quasiment 10 milliards d'euros qui sont partis en fumée de capitalisation boursière de la société. On voit bien que c'est un problème de confiance. Voilà.
D'autant plus qu'il s'est passé. Il y aura un nouvel acteur à partir de l'été prochain, normalement. Ça sera KNDS, puisque là aussi, hasard de calendrier, c'était mercredi, même jour que l'abandon de ce contrat. Ça a également sûrement pesé un petit peu dans la balance, même si cette IPO de KNDS, elle est attendue depuis des mois maintenant.
Alors, cette IPO de KNDS, selon la presse, effectivement, elle est attendue depuis longtemps. Elle a été repoussée plusieurs fois. Je vous rappelle le schéma. KNDS, c'est la fusion, il y a maintenant, en 2011, d'un... 2011 ou 2015, j'ai un doute, d'un acteur français qui s'appelle Nexter, ex-Giat Industrie pour les plus anciens d'entre nous, et d'une société qui s'appelle Crossmafai, qui est un fabricant de chars historiques allemands, qui était détenu par une famille. Donc on a un couple franco-allemand dans une société qui est devenue KNDS et qui finalement cherchait à faire une introduction en bourse via cette famille qui sortirait du capital, vendrait 40% de sa participation à l'État allemand, 10% sur le marché, et la France vendrait 10% du capital. Donc on aurait 20% du capital sur le marché. La décision est enfin arrivée, ça a été très long, les négociations entre l'Allemagne, le gouvernement allemand et les familles, et la famille. Il semble que au lendemain de Rossatori, KNDS a décidé de lancer les opérations. Malheureusement, effectivement, ce qu'on appelle le lancement des opérations, c'est quelque chose d'assez formel. C'est on lance ce qu'on appelle une éducation des investisseurs. Donc, les analystes vont expliquer le business de la société aux investisseurs. Les investisseurs vont faire un retour auprès des analystes en disant « moi, je trouve ça intéressant, mais quel est mon prix ?» Donc là, le sujet, c'est est-ce que le prix de KNDS tel qu'il pouvait être imaginé il y a une semaine, va devoir changer, étant donné le choc sur la défense allemande. Rheinmetall, oui, mais sur tout le reste.
D'où le fait qu'on n'ait pas encore de date précise pour cette introduction en bourse de KNDS. Il nous reste à peine une minute, Damien Zirix. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de ce secteur de la
défense? Alors, moi, je trouve que en fin d'année dernière, on avait des valorisations qui étaient beaucoup trop chères. Franchement, on avait une relation entre la capacité des ces sociétés à réaliser ce que le marché attendait d'elles, qui me paraissait un peu incohérente pour beaucoup d'entre elles, pas pour Thales et BAE, mais pour les Allemandes beaucoup. Là, la chute est très violente, vous l'avez dit, c'est 50% par rapport au plus haut. mais Ensolt, Renk et ça, c'est la même chose. Hein. On a des baisses de plus de 20% en un mois. Et là, on commence à retrouver franchement des niveaux intéressants. Devant nous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le 7 juillet, le rendez-vous annuel de l'OTAN où les États vont réaffirmer leurs envies d'investissement, il me semble. Et ensuite, il y a un énorme contrat qui est attendu au deuxième semestre en Allemagne qui s'appelle le contrat Arminius, qui est pour l'achat de 1800 véhicules d'infanterie. C'est gigantesque, hein, c'est le plus gros contrat jamais alloué, qui devrait justement rassurer les investisseurs sur le fait que l'Allemagne va bien dépenser ce qu'elle a décidé de dépenser.
Merci beaucoup Damien Dirix de nous avoir fait partager votre éclairage sur ce segment de la défense. Je rappelle que vous êtes gérant chez Exane Asset Management. 9h18, on va rejoindre Valentin Bissat qui nous attend chez Mirabeau Asset Management en Suisse. Valentin Bissat, chef économiste et stratège de Mirabeau Asset Management. Bonjour Valentin, merci de nous accompagner ce matin. Quatrième séance dans le rouge hier soir pour le Nasdaq. C'est vrai que après un parcours spectaculaire depuis la fin du mois de mars, il y a de plus en plus d'interrogations sur la tech, avec, je disais en préambule, des hausses de prix chez Microsoft, chez Apple, des questions sur l'interrogation de OpenAI. Bref, petite pause, là, ça se calme un petit peu sur les valeurs tech.
Oui, on a eu aussi cette semaine les bons résultats de Micron. Donc d'un côté, on voit quand même que la thématique est porteuse, les bénéfices sont là. Mais on sait que c'est un marché qui va rester volatile. Depuis l'introduction de SpaceX, on sait que les investisseurs se regardent un petit peu comment se positionner, comment réallouer leur portefeuille. Donc cette volatilité risque de rester encore ces prochains mois.
Une volatilité très forte sur les valeurs liées aux semi-conducteurs. Vous avez parlé de Micron. C'est vrai que le titre a gagné 15% hier soir à la clôture. Ce matin, la bourse de Séoul a perdu plus de 6% sous le poids de Samsung et de SK Hynix qui sont là aussi très volatiles. Est-ce que pour vous, ce segment technologique doit encore avoir une place prépondérante dans les portefeuilles ou il faut commencer à prendre un petit peu de recul? On a vu hier la réaction sur le titre Apple, moins 6%. Le marché craint que Apple n'ait pas la capacité de pouvoir répercuter les hausses de prix qui ont été annoncées hier, qui sont quand même assez conséquente. Sur un Mac, ça passe de 600 à 700 euros, par exemple.
De notre point de vue, c'est quand même important de rester investi sur ce secteur, sur les semi-conducteurs, sur l'équipement hardware. C'est vraiment des positions fondamentales dans nos portefeuilles. On voit quand même que la croissance américaine, et on a eu des chiffres encore cette semaine, la croissance américaine reste très, très forte. Sur le deuxième trimestre, on peut penser que la croissance sera supérieure à 2,5%. Donc, on pense que le consommateur sera en capacité, finalement, de supporter ces hausses de prix. Mais il est clair que ce cycle d'investissement, au bout d'un moment, c'est ou les entreprises qui vont prendre en partie sur leur marge, et on sait qu'évidemment, c'est négatif pour les investisseurs, ou le consommateur qui va devoir encaisser ces hausses de prix. Donc, pour l'instant, on l'a vu principalement, cette inflation sur les prix à la production, sur les prix aux importations. Si on regarde les prix aux importations américains, on voit que les prix des composants électroniques a explosé. Et jusqu'à maintenant, on voyait pas encore cet impact sur les prix à la consommation. Les prix à la consommation qui sont principalement guidés par l'inflation sur les services, les prix des biens représentent à peu près 20% du panier de compte de la consommation aux États-Unis. Mais il y a un moment quand même où ces prix vont passer des prix à la production aux consommateurs et ce sera intéressant de voir non seulement comment les consommateurs réagissent, mais également la Banque centrale américaine.
Cette semaine a été très enrichissante sur les marchés avec le pétrole qui est revenu sur ses niveaux d'avant-guerre, le dollar qui continue de se renforcer. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ce dollar qui devient à nouveau une valeur refuge alors qu'elle ne l'était pas vraiment pendant le conflit en Iran?
Alors le dollar s'est apprécié quand même pendant le conflit en Iran. On pensait que justement l'accord de cesser le feu et ensuite l'accord de paix, en tout cas, qui est en train d'être négocié entre les États-Unis et l'Iran, pourrait amener finalement à une dépréciation du dollar. C'est pas le cas. Ça s'explique pour l'instant principalement par la Banque centrale américaine. Beaucoup anticipaient une Banque centrale américaine peut-être un peu plus accommodante, ou en tout cas dans le discours, avec la nomination et la première réunion de Banque centrale sous la direction de Kevin Warsh. Donc une Banque centrale américaine qui a remis l'accent sur l'inflation. On voit maintenant que les investisseurs anticipent près de 2 hausses de taux ces prochains mois. Donc ça aussi, ça vient soutenir le dollar. Et ces thématiques de l'intelligence artificielle, on sait que les pays qui en bénéficient sont certes Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, mais également les États-Unis. Donc ça, en termes de flux d'investissement, c'est aussi positif pour les États-Unis et pour le dollar.
dollar fort qui pénalise l'once d'or, qui est passé sous les 4000 dollars cette semaine, mais également dans une moindre mesure le bitcoin, hein, qui est passé encore cette nuit sous les 60 000 dollars. Est-ce que ce dollar, la vigueur de ce dollar, eh bien, remet un petit peu en cause votre allocation, ou est-ce que vous avez fait quelques mouvements là cette semaine, Valentin Bissard?
Alors effectivement, la force du dollar, la hausse des taux d'intérêt réels, vraiment important, pèse sur le dollar. Nous, on a pris sur certains comptes en francs suisses, on a profité finalement de la correction de l'or pour rajouter un petit peu sur les positions. On pense que l'argument sur le moyen long terme est toujours là. Effectivement, à court terme, c'est ces craintes de débasement. De nouveau, on revient sur la Banque centrale américaine. C'était un des grands thèmes. Est-ce que finalement, on va laisser courir l'inflation? Est-ce que le sujet de la dette va revenir? Ce sont des sujets qui actuellement sont un peu moins présents. Mais on pense que ça va revenir à court moyen terme. Et de nouveau, à 4000 dollars l'once, on pense que ce sont des niveaux assez intéressants pour remettre un pas dans cet actif-là.
Et d'un point de vue boursier sur les secteurs actions, quels sont aujourd'hui les secteurs que vous continuez d'accompagner? En préambule, on parlait du segment technologique, mais ce n'est pas le seul, j'imagine.
Alors, on a relativement peu de surpondération dans notre allocation. Aux États-Unis, on a le secteur de la tech, ou en tout cas les semi-conducteurs et le tech hardware. On reste toujours prudent sur les softwares. On a toujours une surexposition au secteur de l'énergie, mais évidemment, l'accord entre l'Iran et les États-Unis remet un petit peu en cause cette surpondération. C'est quelque chose qu'on va encore réévaluer ces prochains jours. Mais on a été surpris par la vitesse finalement de normalisation des prix du pétrole. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une volatilité qui pourrait rester importante pendant ces 60 jours de négociation de l'accord. Et puis en Europe, on est toujours exposé à des secteurs industriels notamment et financiers.
Et les résultats semestriels également qui vont bientôt être publiés d'ici allez, 3 semaines, hein, notamment du côté des États-Unis puis en Europe. Merci beaucoup Valentin Bissat de nous avoir partagé vos convictions ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste et stratège chez Mirabeau Asset Management. 9h24, le CAC 40 est donc ce matin en très légère baisse. Moins 0,3%, 8400 points, moins 0,4% également pour l'Eurostoxx 50 à 6241 points. Bonjour Denis Desclos, merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes président de l'Association française des analystes techniques. Alors bon, avec vous, on va pas regarder le CAC 40 qui reste encore et toujours bloqué sur les mêmes zones, mais un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis, notamment en ce qui concerne le S&P 500 qui a clôturé hier stable, hein, quasiment à zéro pointé. On était à 7357 points.
Bonjour Étienne, merci de me recevoir. Oui, effectivement, alors ce que j'ai noté en fait sur le S&P 500, c'est qu'on a une figure chartiste qui s'appelle un diamant. Un diamant, c'est un losange horizontal dans lequel les cours vont osciller. Et cette figure traduit en fait une phase d'incertitude du marché. D'ailleurs, on le voit bien, hein, moins 0,01%, c'est symptomatique. Et c'est une figure généralement de retournement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un diamant de sommet qui est généralement une figure de retournement baissier, un diamant de creux qui est une figure de retournement haussier, mais ça peut aussi être une figure de continuation. Donc en fait, c'est le sens de la sortie du diamant qui nous donnera la tendance. Et dans ce cas-là, l'objectif théorique de la figure, ça reste un objectif théorique, hein, c'est jamais une certitude, c'est la hauteur de la figure. Donc la hauteur du diamant, ce qui nous donnerait un objectif, si on sort par le haut, de 7912 points pour le S&P 500. Pour l'instant, on est plutôt sur le bas de ce losange. Hein. Il faudrait qu'on remonte vers le haut pour sortir vers ces 7912. Et on sort par le bas, on a un objectif à 6968. Là encore, objectif théorique.
Sachant qu'hier soir, pour rappel, on était à 7357.
Exactement, le bas du diamant.
Du côté des secteurs, on voit, c'est vrai que la séance hier a été très agitée. Hein. Apple a perdu 6%, Microsoft moins 3%. On est d'ailleurs sur des plus bas de 2023. Et puis à l'inverse, les semi-conducteurs, Micron plus 15%. Micron qui fait partie du fameux indice SOX, hein, l'indice de Philadelphie des semi-conducteurs, qui là a connu un parcours spectaculaire. On est sur une hausse parabolique.
Oui, tout à fait. Mais comme souvent, je pense, toutes les phases de mutation technologique, on a eu ça avec les chemins de fer au 19e siècle. On a une phase de surinvestissement. On a eu ça avec l'Internet, la téléphonie mobile, avec la bulle des valeurs technologiques. Et je pense qu'on a ça avec l'IA. C'est-à-dire qu'on commence par une phase de surinvestissement qui se traduit par un excès de valorisation qu'on va devoir digérer à un moment ou à un autre. Donc aujourd'hui, par exemple, sur Micron, effectivement, vous avez raison de le souligner, ils ont annoncé des résultats donc tout à fait favorables, ce qui leur a permis de voir leur cours progresser de 15%. Maintenant, on a, au point de vue de l'analyse technique, on peut très bien analyser ça comme un possible double sommet. Qui à ce moment-là, si on devait donc casser la ligne de coût de ce double sommet, nous ramènerait vers 954 et même 843. Ou bien on peut avoir une poursuite donc de cette hausse, hein, parce que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que les vendeurs à découvert. Et à ce moment-là, on pourrait définir un objectif théorique qui serait de 1374 $, donc en utilisant un outil qui est basé sur les extensions de Fibonacci.
Un titre qui était hier à 1213, hein, on est quand même sur un parcours spectaculaire. Quand vous voyez ces progressions là sur Micron, sur l'indice SOX, et puis dans une moindre mesure sur le S&P 500 qui a quand même connu un super parcours là depuis la fin du mois de mars, vous êtes prudent, vous avez envie d'accompagner.
Je suis prudent, parce qu'en fait, historiquement, depuis la bulle des tulipes au XVIIe siècle, c'est toujours la même forme, c'est-à-dire que c'est une croissance modérée, une accélération verticale, et ensuite, on a une correction qui est tout aussi verticale.
Et comment on peut se mettre à l'abri? Alors, c'est vrai que sur ce plateau, on parle souvent des options. Mais comment, quand on est investi en bourse, on peut se préparer à un éventuel retournement demain, tout en étant investi? Parce qu'en fait, ce retournement, il peut avoir lieu dans un mois, trois mois, un an. Ça peut durer longtemps.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut chercher des signaux. L'analyse technique donne des signaux de retournement baissier. Par exemple, aujourd'hui, on a une divergence baissière sur le S&P en mensuel. Donc, c'est un indicateur, c'est un signal précurseur que la tendance est peut-être en train de s'essouffler et qu'elle finira par se retourner. Ensuite, on descend d'unité de temps jusqu'à trouver des signaux de retournement baissier.
Merci beaucoup. Denis Desclos nous a accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence, l'Association française des analystes techniques. 9h29 dans une minute. Allez, deux minutes, vous retrouvez les experts avec Raphaël Legendre. Séance à suivre, bien sûr, l'ouverture à Wall Street qui sera cruciale tout à l'heure dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer à 15h30. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business. We'll be right back.